Père, on te bénit pour ton amour, on te bénit parce que tu es Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. On te rend grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui fais toutes choses à merveille. C'est toi qui amènes toutes choses à la perfection. Tes œuvres sont belles, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur, on ne peut que te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes enfants, Seigneur. Merci pour ton Église, pour ton peuple, Seigneur, que tu t'es choisi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comment te dire suffisamment merci, Père ? Nous nous confions ce matin entre tes mains. Nous confions toutes choses entre tes mains, Seigneur. Et nous nous réjouissons, Seigneur, parce que tu es là. Et c'est toi le plus important, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Si tu n'es pas là, nous n'avons pas de raison d'être là. Nous avons besoin de toi. Que ton esprit nous couvre, Seigneur. Que ton esprit couvre ce culte, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Est-ce que vous allez bien ce matin ? Ouais ? Alors ce matin, moi je trouve que c'est un jour super. C'est un beau jour ce matin. C'est un jour où on voit une résurrection. Quelqu'un qui passe de la mort à la vie, et c'est magnifique. Et aujourd'hui, le ciel se réjouit. On est dans un temps de fête. C'est la fin d'année, on rentre dans la période des fêtes. C'est des moments de joie. Et avant de rentrer un petit peu dans le partage que nous allons faire ensemble, j'aimerais juste vous laisser une pensée sur le cœur. C'est en effet des temps de fêtes et de réjouissances, mais vous savez que parfois, les fêtes de fin d'année, c'est des moments difficiles pour certains. Pour certains, il y a les coups durs de la vie. Et pour certains, il y a une année 2024 qui est compliquée, qui s'annonce. Alors, si nous allons bien, merci Seigneur, quand on va bien, c'est une grâce. Quand on va bien, on ne s'en rend pas compte. Respirer, c'est une grâce. Certains, dans le monde, maintenant, pendant que je vous parle, ont du mal à respirer. Ils réalisent en fait que respirer, c'est une grâce. Quand tout va bien, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est quand les choses commencent à dysfonctionner qu'on se rend compte de la faveur du « quand tout va bien ». Alors ce matin, si nous sommes là, que nous sommes debout, que nous allons bien, je vous invite aussi à faire le pas de plus pour ceux qui ne sont pas debout, pour ceux qui sont à terre. Déjà, la première chose que l'on peut faire, c'est prier. Par nos prières, on peut faire le pas de plus. Par nos prières, on peut apporter un soutien. Le pas de plus qui va bénir notre frère, qui va bénir notre sœur. C'est important. Alors, je rentre maintenant dans le thème de la prédication. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un projet sur le cœur et de vous dire « Mais comment je vais faire pour mettre ça en place ? Comment je vais faire pour faire tourner le truc ?» Des fois, on a le projet et on se dit « Mais Dieu, tu m'as mis le projet sur le cœur, mais je ne suis pas le bon candidat. Quand Dieu va parler à Gédéon va lui dire, mais non, vaillant héros, non, tu n'as pas tapé au bon endroit. Hein, c'est... Des fois, on a l'impression, on regarde notre CV, on se dit, non, mais je n'ai pas le profil, ça ne va pas le faire, c'est pas moi. C'est pas moi. Et vous savez, des fois, la situation, elle est inconfortable parce que Dieu met en nous, sur notre cœur, des projets. Et ces projets, c'est comme un feu qui va se mettre à brûler dans notre cœur. Alors, ça peut être pour plein de choses, les projets. Ça peut être pour bénir le monde, ça peut être pour bénir l'Église, ça peut être vraiment pour plein de choses. Mais la plupart du temps, pour toutes les personnes dont Dieu se sert, vous, moi, nos familles, eh bien, il s'avère que Dieu a une petite manie. Il aime bien prendre des gens qui n'ont pas le profil. Dieu aime bien ça. Alors, on va regarder une première diapo. C'est un peu une marque de fabrique, en fait, de Dieu. Et l'apôtre Paul, il formule la pensée de la manière suivante. L'apôtre Paul va dire « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Considérez donc, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. En d'autres termes, on est à peu près des gens tous normaux. On n'a pas d'ultra milliardaire qui est là. Ça aurait pu arranger. On n'a pas de savant exceptionnel. On n'a pas Steve Jobs. On est des gens normaux. On est des gens ordinaires. Mais la force de Dieu, c'est qu'il accomplit un plan extraordinaire avec des gens ordinaires. Alors on va regarder la diapo suivante qui nous dit ceci. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul ne se glorifie devant Dieu. » Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que quand il choisit quelqu'un pour faire une œuvre, il prend quelqu'un, alors je peux le dire parce que je suis en partie italien, il prend quelqu'un qui ne va pas pouvoir dire « Eh, faccio tutto io, hein ?» Ça veut dire « Eh, c'est moi qui ai tout fait. » Celui qui a tout fait, c'est Bibi. En fait, ça nous amène en fait à notre titre, au titre de notre partage, que nous voyons à la diapo suivante, et ce titre nous concerne tous. Outsider de Dieu, méconnu des hommes. Pourquoi ? Parce que pour Dieu, nous sommes des outsiders. Tous. Et la caractéristique d'un outsider, alors j'ai cherché sur le dictionnaire évidemment, et un outsider c'est quelqu'un qui vient du dehors, qui n'appartient pas nécessairement à un groupe, sous-entendu au bon groupe. Et c'est quelqu'un qui pourrait gagner, donc ça veut dire qu'il fait partie de l'équation, il pourrait gagner malgré les pronostics. Ça veut dire qu'il n'est pas le favori. Ça veut dire que pour Dieu, nous sommes des outsiders, mais pas des méconnus. Méconnu, c'est celui qu'on a laissé de côté et qu'on ne voit pas. Ça a été un peu comme David, on va en parler plus tard, mais ça a été un peu comme David. Invité à son onction, il était là, et en fait il n'était pas là. Son onction de roi d'Israël, il n'était pas là. Il n'a pas été invité, tellement qu'il était méconnu. Pour Dieu, nous sommes des outsiders, on est connus. Mais ce que Dieu veut, par-dessus tout, c'est pas qu'on reste dans la dimension d'un outsider, c'est qu'on aille plus loin. Et l'apôtre Paul va le formuler dans 1 Corinthiens de la manière suivante. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. C'était notre fameuse couronne de laurier. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, alors dans sa marche chrétienne, j'entends bien, je pense que si Paul avait entendu la citation de Pierre de Coubertin, « L'essentiel, c'est de participer », il l'aurait validé. Mais dans la marche chrétienne, quand on voit le personnage qu'est l'apôtre Paul, il n'était pas là juste pour participer. L'apôtre Paul, quand on lit ce qu'il dit, il est là pour gagner. Il n'est pas là pour dire, ok, bon allez, j'ai fini quatrième, c'est pas grave. Non, il dit, moi, je veux la couronne, je veux la coupe, je cours, je frappe, pas comme battant l'air. Je veux transformer l'essai. Et en fait, outsider, c'est bien. Transformer l'essai, c'est mieux. Et en fait, c'est à ça que Dieu nous appelle. Peut-être que nous n'avons pas le profil. Peut-être que nous ne sommes pas dans la bonne catégorie et que nous ne jouons pas dans la bonne catégorie. Mais ce que Dieu nous appelle à faire, c'est à transformer l'essai. Et pour transformer l'essai, c'est à ce moment-là que notre part va entrer en action. C'est à ce moment-là que nos choix vont avoir de l'importance, que notre foi va avoir de l'importance, que nos décisions, que notre marche avec Dieu va avoir de l'importance. Et puisqu'on parle de profil, nous allons commencer par parler de quelqu'un que nous connaissons tous et qui pourtant, à la base, n'avait pas le profil, notre outsider en chef. Est-ce que vous savez qui c'est ? C'est Jésus. Jésus, on va être très clair, il n'avait pas le profil. Quand on regarde ce que nous dit la Bible, qui nous parle de Jésus, qui nous l'annonce à l'avance, il nous est dit ceci. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, c'est-à-dire devant Dieu, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et quand Jésus s'est présenté devant le peuple, il n'avait pas le profil. Il n'avait pas le profil pour être un Essénien, trop sociable. Il n'avait pas le profil pour être un pharisien. Il n'était pas reconnu, il n'avait pas fait l'école avec eux, il n'était pas validé, il n'avait pas été adoubé par l'establishment. Il n'avait pas le profil pour être un politicien. Il n'intriguait pas, il ne faisait pas de politique. Par-dessus tout, il va ajouter au crime d'avoir été manifesté à Israël par l'homme dont toute la classe religieuse et politique a dit « Never », c'est-à-dire Jean le Baptiste. Jésus n'avait pas le profil. Et pourtant, c'est par lui que l'humanité a été sauvée. C'est par lui que nous avons été sauvés. C'est par lui que nous avons été bénis. Au regard du clergé, pareil, il n'était pas lévite, il n'était pas prêtre. Au regard de la royauté, il était de la tribu de David quand même. Enfin, de la tribu de Juda, il descendait de David. Check, à ce niveau-là, ça allait. Sauf que, dans sa généalogie, sans rentrer dans le détail, il y avait un gars qui s'appelait Jéconias. Et ça, c'était disqualifiant. Donc même sur ce point de vue-là, il n'avait pas le profil. Alors, mais qu'est-ce qui a fait que ça a marché ? Bien Jésus, en fait, quoi qu'il n'a pas été dans les clous, quoi qu'il n'ait pas été celui que l'on a voulu, il a été choisi par Dieu. La Bible nous dit « L'Éternel ne considère pas à ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. » Littéralement, le texte nous parlait de David, mais prophétiquement, le texte nous parle de Jésus. Alors, qu'est-ce qui a bien pu faire la différence ? Alors vous allez me dire, ouais, c'est Jésus. Je suis d'accord. Mais ce qui a réellement fait la différence, c'est que Jésus avait cette relation avec son Père. Il avait cette relation étroite avec Dieu. Jésus a eu le choix, comme nous, en toute chose. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il aurait pu s'occuper de lui. Et même quand il était sur terre, il avait la possibilité, s'il voulait, de remonter auprès de son Père. Quand l'apôtre Pierre dégaine l'épée, Jésus lui dit « Attends, relax. Tu ne penses pas que je pourrais demander à mon Père qui m'aurait donné, là, maintenant, tout de suite, plus de 12 légions d'anges ?» Et il avait une force de frappe quand même, Jésus, hein, 12 légions d'anges. Et il a fallu 2 anges pour détruire Sodome et Gomorre et pour les faire passer en dessous du niveau de la mer. Hein. 12 légions d'anges, ça va, il était assez protégé quand même, s'il le voulait. Hein. Mais Jésus a fait le choix d'aller à la croix. Et ce choix d'aller à la croix, ce n'est pas parce qu'il est Dieu que ce choix a été plus facile. Parce que quand Jésus a vaincu le péché, il ne l'a pas vaincu en tant que Dieu, il l'a vaincu en tant qu'homme. C'est pour ça que la Bible dit de lui qu'il est le nouvel Adam. C'est parce que lui, Jésus, a vaincu là où Adam a échoué. Et à cause de lui, à cause de sa victoire, eh bien nous sommes désormais dans la victoire parce que sa victoire nous est attribuée. Et grâce à Jésus, nous sommes dans la victoire. Et ce matin, moi, j'aimerais vous dire ceci, vous êtes là. Et si vous êtes là, c'est parce que sur votre vie, il y a une faveur, il y a un choix, il y a la faveur de Dieu. Vous êtes là parce que Dieu vous a appointé. Tous, je suis là, vous êtes, on est tous là parce que Dieu nous a appointé. Parce que Dieu veut bénir l'Église, parce que Dieu veut bénir le monde. Et il a choisi de bénir l'Église et de bénir le monde en se servant des gens ordinaires que nous sommes. Alors, parfois, quand on avance sur ce chemin et que l'on a dans le cœur ces plans, ces projets de Dieu, on est parfois un peu dans la perplexité. C'est quand même inconfortable quand on sent qu'on n'a pas le profil. Et on se dit comment je vais faire, comment je vais gérer le point, comment je vais gérer le projet. Il y a un personnage de la Bible qui est vraiment particulier, c'est David. David, c'est un appelé de Dieu. Dieu l'a choisi pour être le chef de son peuple. Oui, mais on se dit tous, on voudrait être comme David. Mais David, le chemin qu'il a parcouru, c'est un truc de dingue. Alors, on ne va pas reprendre toute son histoire, on va survoler un petit peu ce qu'il a parcouru. Mais on pourrait dire en résumé, la moitié du premier livre de Samuel, c'est les galères de David avant de devenir roi. David qui, avant d'être roi, est passé par la case paria. Et quelque part, moi, je me dis, ça m'amène toujours à cette réflexion. Alors, c'est un trait d'humour, hein, vous comprenez. Quand Dieu a ouvert la mer du temps de Moïse, connaissant la manière de procéder de Dieu, limite, je m'étonne que Dieu ne l'aurait pas fait faire des zigzags au fond de la mer, quoi. Parce que des fois, le chemin de Dieu, et on va peut-être le voir à la prochaine diapositive, ce n'est pas le plus simple. Alors, si on se met à la place de David, vous voyez, il avait le pâturage d'un côté, il y avait la royauté de l'autre, et David, il a dû se dire, « Allez, Seigneur, on va passer à droite, hein ?» Et Seigneur, il a dit à l'autre droite. Hein. Et David, il ne voulait pas y aller à gauche, hein, David. Il n'a pas choisi la route de gauche, hein, David. Mais il y est allé. Hein. Et en fait, quand on regarde l'histoire de David, c'est dingue. Ou un roi d'Israël, il n'était pas là à son onction. Il n'était tellement pas reconnu, tellement pas qualifié, même par son propre père, que la famille a été invitée. Son père lui a dit, toi, tu restes garder les brebis. Et Samuel va dire au père de David, mais c'est là tous tes fils, il n'y en a pas un autre, t'es sûr? Oh, ouais, il y a le dernier, là, il est au pâturage. Et c'est David, c'est celui que Dieu a choisi. Alors il est convoqué en urgence. Hein. Il est un roi sur Israël. Et là, on se dit, ça y est. C'est parti. Mais non, il retourne au pâturage. Il n'est toujours pas roi. Il retourne au pâturage avec son onction, mais il n'est toujours pas roi. Alors un truc se passe. Le roi a un problème spirituel. Alors on fait venir David, parce qu'il y avait le plan de Dieu qui était en action. Alors on fait venir David. Et David va jouer de la harpe devant le roi. Mais on se dit, là, il est dans le palais du roi, ça va se passer, là, ça y est, c'est en marche. Rien ne se passe. Et c'est la guerre. Les Philistins arrivent. Et David, pendant que Saül repart à la guerre, David, lui, il repart au pâturage avec ses brebis et son onction. Et voilà qu'il est appelé, il doit aller sur le champ de bataille pour apporter du ravitaillement pour ses frères. Et là, on connaît l'histoire, il y a Goliath qui arrive. Il y a Goliath qui rentre dans le tableau. Et là, eh bien, David, on connaît l'histoire, il vainc le géant Goliath. Mais il y a quelque chose d'absolument fou. Et j'ai toujours trouvé cette phrase complètement incroyable de la part de Saül, qui nous dit « Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, Abner c'était général, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il, fils Abner ?» Abner répondit « Aussi vrai que mon âme est vivante, je l'ignore. » Il était devant toi pendant des semaines. Il a joué de la harpe devant toi pendant des semaines. Quand tu étais malade, il était là. On a même l'impression, ce jeune homme, on a même l'impression qu'il n'a même pas reconnu. Et en fait, David, c'est toute son histoire, en fait. Toute son histoire, ça va être comme ça. Alors là, il va y avoir quelque chose qui se produit. Il vainc Goliath, ça y est. Et là, il est amené. Il est emmené par le roi qui ne va pas le laisser repartir, du coup. Parce qu'il reconnaît ses capacités. Et là, il y a des bonnes choses qui vont se mettre en place. Une amitié va se développer avec Jonathan. Et là, d'un coup, ça bascule. Alors que David réussit, alors que tout est parti, on se dit « c'est bien, ça va aller ». Et là, il y a un chant. Un malheureux chant. Il y a des gens qui font chanter des chants en leur honneur. David, il n'a rien demandé, lui. Les femmes sont sorties, elles ont chanté « ouais, David !» a frappé ses, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et là, Saül, il a dit « Ah ouais ? Ah ouais, David, on m'a mis 1000 et à lui 10 000 ?» Et là, David devient ennemi de Saül. Et Saül va vouloir le tuer. Il va vouloir le tuer au point que David va à un moment quitter le pays. Et la manipulation va aller loin. David va être humilié par Saül. Il va être manipulé par Saül. Ça va aller tellement loin au point que même le roi va lui faire épouser sa fille pour que sa fille soit un piège pour lui. Vous imaginez comme c'est tordu ? Vous imaginez que la persécution que David a vécue. Et là, donc, David doit fuir en pleine nuit parce que le roi avait décidé de le tuer pour de vrai. Et sa femme l'aide, et sa femme va couvrir sa fuite. Et donc, du coup, David s'en va. Et Saül le poursuit. Et Saül met à mort tous ceux qui aident David. David doit cacher ses parents. Il doit partir à l'étranger, chez ceux qu'il avait combattus. Il doit se faire passer pour un fou. Il se fait passer pour un fou. Il est devant les rois ennemis, il bave. Il fait semblant de baver. Il fait pour qu'on ne le reconnaisse pas, pour qu'on dise « Non, ben bon, ouais, ok, c'est David, mais il n'y a plus rien à craindre. Hein. » Et voilà qu'à force de fuir, il finit par se retrouver dans la caverne d'Adoulam. Et là, moi, je me mets à la place de David, hein, dans la caverne d'Adoulam. Hein, je me mets à sa place. Je me dis, mais dans quoi je me suis embarqué ? Mais dans quoi je me suis embarqué ? Et là, alors d'accord, il y a des gens qui viennent à la caverne d'Adoulam. Il y a les vaillants de David. Ah, mais il y a aussi les autres hein, qui sont compliqués à gérer. Et quand le roi tombe entre les mains de David, parce que le roi va tomber entre les mains de David, quand le roi tombe entre les mains de David, ceux qui étaient les mauvais conseillers lui disent bah, « Allez, vas-y, c'est le moment là, il faut le tuer !» Et David, il dit « Non, on ne touche pas à loin de l'Éternel. Dieu gère son loin, on ne touche pas. » Sauf que quand ça va tourner vinaigre, parce que ça va tourner vinaigre, parce que hein, David, il est sur le chemin de gauche, on le rappelle, il repart à l'étranger, il s'enfuit. On les entend, les gars qui sont en train de dire « On t'avait dit qu'il fallait le liquider quand le moment était là !» Mais David, vous imaginez, mais ouh, c'était chaud pour David. Hein. Et on se dit à la fin, ça y est, Saül est mort. Ouh, enfin, il rentre dans son pays, mais il n'est pas roi. Il est roi juste de sa tribu. Et voilà que tu as la guerre civile. Pour être roi, il faudra attendre presque 20 ans pour David. 20 ans de galère. Des fois, le chemin de Dieu, il est vraiment particulier. Mais par contre, Dieu veut des fois des chemins difficiles parce qu'il veut des leaders différents. Et ça, ça fait mal quand on y est. Mais s'il avait été comme tous les autres, S'il avait eu un chemin comme tous les autres, il aurait été un roi comme tous les autres. Mais parce qu'il a eu un chemin plus difficile que les autres, il a été un roi plus apte, plus formé, capable de s'asseoir sur le trône d'Israël et de diriger le peuple. S'il n'avait pas été le jeune berger qui a tué le lion et l'ours, il n'aurait pas été le jeune homme qui marche à la rencontre de Goliath. Et s'il n'avait pas été ce jeune homme qui a marché à la rencontre de Goliath, il n'aurait pas été repéré par Saül. Il n'aurait pas été amené au palais. Et s'il n'avait pas été au palais un peu avant d'ailleurs, il n'aurait pas appris comment est-ce qu'on dirigeait un pays. Parce que, ok, il avait l'air d'un meuble, ok, on le prenait pour un meuble, personne ne l'a remarqué au palais. Mais il était là, il l'entendait. Il était avec le roi, il était avec les généraux. Il les entendait parler, il savait ce qui se passait dans le pays. Il a appris comment on dirigeait la maison du roi, il a appris comment on dirigeait un pays. Dieu l'a formé sur le tas. Et il a appris par-dessus tout qu'il fallait compter sur Dieu. Et c'est ça qui fait la différence, sa relation avec Dieu. On a chanté tout à l'heure un chant, ouvrez les portes. Les portes, pas ouvrez les portes. Acclamons, laissons entrer le roi de gloire. Mais c'est David qui l'a écrit ce psaume. C'est David qui a écrit « Élevez-vous, portes éternelles ». Mais si cet homme a pu écrire tous ces psaumes, c'est parce qu'il était en relation avec Dieu. C'est parce qu'il était en contact avec lui. Et c'est parce que dans ces psaumes, on voit qu'il déverse à la fois de l'incompréhension, des questionnements, mais aussi qu'il montre de quelle manière Dieu l'a transformé, de quelle manière Dieu l'a dirigé. De quelle manière Dieu a fait de lui le leader que nous connaissons. Dieu veut en nous des leaders différents. Et c'est pour ça que des fois, le chemin que Dieu choisit pour nous, ben c'est le chemin de gauche. Ce n'est pas le chemin de droite. C'est plus compliqué, c'est vrai. Parfois, avec Dieu, c'est plus compliqué. Mais c'est ce même David qui a pu dire « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat » et mes doigts à la bataille. Il a été formé par Dieu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on regarde de quelle manière David a été éprouvé, il a transformé l'essai. Il a été d'abord inconnu, puis ensuite, il a bien été un outsider, parce qu'il faisait partie de l'équation. Mais il a transformé l'essai. Il a pu devenir roi. Pourquoi ? Parce qu'il a marché avec Dieu. Parce qu'il a fait le choix de suivre Dieu. Parce qu'il a fait le choix d'avoir confiance en Dieu. Il a fait le choix de croire que ce que Dieu dit, il peut l'accomplir. Il aurait pu faire le choix d'Azaël, qui a tué son... Donc Azaël a reçu une prophétie, on lui dit « tu vas être roi ». Et Azaël dit « oh super, je vais être roi, bon bah allez, on y va ». Et il tue le roi, et il prend sa place. Mais David n'a pas fait ça. Si David avait fait ça, il est possible que son règne n'ait pas été affermi comme il l'a été. Alors, où cela nous-mêmes ? Quelle est la conclusion, en fait, que l'on peut en tirer ? Et on va regarder la diapo 12. La conclusion, c'est que Dieu nous appelle et que dans son appel, peut-être que nous ne faisons pas, nous ne rentrons pas dans le cadre. Peut-être qu'on est une pièce qu'on n'arrive pas à faire rentrer dans le puzzle. Peut-être que nous n'avons pas le profil. Mais ce qui est important, c'est que même si on n'a pas le profil, Dieu est capable, lui, d'accomplir ce qu'il a projeté. Et donc, la Bible nous dit, fais confiance. Fais confiance dans la folie de Dieu. La folie de Dieu est plus sage que les hommes, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La folie de Dieu, c'est de prendre un esclave, un prisonnier, et de le faire vice-roi d'Égypte. Vous imaginez ? Le matin, Joseph se lève. Le soir, il est vice-roi d'Égypte. Le matin, il est en prison, esclave. Le soir, il est vice-roi d'Égypte. Et des fois, on ne voit pas forcément l'autre sens, en fait. Mais est-ce que vous imaginez dans le palais de Pharaon ? Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui s'est levé, un notable qui s'est levé en se disant « Ce soir, mon boss, c'est un esclave prisonnier. » Et qui aurait pu penser de ça ? quel que soit le projet que Dieu a mis sur ton cœur, fais confiance dans la folie de Dieu. Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il a dit. Transforme l'essai. De ton côté, quelle que soit la situation, l'important, ce n'est pas la stratégie. L'important, c'est la relation avec Dieu. L'important, c'est la vie de prière. L'apôtre Paul va plus loin. Il nous dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. En d'autres termes, il prend des gens comme nous. Et l'apôtre Paul, il a bien compris le principe. Il a dit, ok Seigneur, tu veux te servir de la faiblesse? Eh bien, diapo suivante, Seigneur, tu veux te servir de la faiblesse? Ok, pas de problème, je vais être faible. L'apôtre Paul dit, je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et ce Paul qui dit ça, c'est le même hein, qui dit, quand je frappe, c'est pas comme battant l'air. C'était pas un faiblard, Paul. Mais il a fait le choix de dire, ok, Seigneur, sers-toi de ma faiblesse pour glorifier ton nom. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais prier pour tous ceux qui ont un projet sur le cœur, pour tous ceux qui ont reçu sur le cœur un feu qui brûle, quel que soit le domaine, quelle que soit la dimension. Allez, je prends une minute pour vous raconter une histoire. Il y avait un jeune garçon qui servait Dieu, qui voulait bénir le monde, qui voulait bénir ceux que la société rejetait. Alors il a pris des SDF, il a pris des prostituées, il les a amenées à l'église. Et le leader qui était responsable de l'église lui a dit, plus jamais tu m'amènes ces gens-là à l'église. Et le jeune, il a dit, ok, pas de problème, je vais les prendre avec moi. Et ce jeune, c'est celui qui a fait l'armée du salut. Les amis, quel que soit le projet que Dieu a mis sur ton cœur, Dieu peut accomplir tout ce qu'il dit. Amen. Seigneur, je te prie, Père, en ce jour, parce que tes enfants sont devant toi et nous sommes tous à ta disposition. Nous avons besoin de toi simplement et de ta faveur. Nous avons besoin de voir ta gloire, Seigneur. Nous avons besoin que tu te manifestes par nous. Nous te prions, Seigneur, pour les projets que tu as déposés dans les cœurs, afin que tu glorifies ton nom, Seigneur. Afin que, dans ta folie, Seigneur, tu nous conduises à accomplir les œuvres de gloire que tu as prévues, Seigneur. Dans l'incompréhension, dans le doute, dans les questionnements, soutiens tes enfants, Seigneur. Sois glorifié, Père, et sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.